Sur le moment, je restais tout stupide. Aucune expression ne me vint à l'esprit. Je subissais l'effet de ce météore, comme un accablement, comme une damnation. J'éprouvais le sentiment du tragique, de l'implacabilité.
Je ne peux pas dire. Vous savez, la mémoire n'est pas quelque chose de, comment dirais-je, de très certain. La mémoire est travaillée, enfin, elle oublie certaines choses, elle construit d'autres choses. C'est une drôle de faculté. Hein.
Accablé par l'intensité du phénomène, chaque fois que je relevais les yeux, je constatais à nouveau cette ombre mélangée. Au jour, ce blâme.
Bon, on arrête. Jusqu'à demain. Demain sera le 16.
Ben oui.
Nous sommes en 1941. Ce dimanche d'avril, Francis Ponge se rend à Aix-en-Provence. De la vitre du car qui vient de Marseille, on aperçoit la campagne dans le matin. À la hauteur du lieu-dit La Bonine, la Nationale 8 est bordée de fontaines, d'urnes, de petites statues. Francis Ponge écrira « Décidément, la chose la plus importante dans ce voyage fut la vision fugitive de la campagne de Provence. » Nous avons voulu reprendre cette route empruntée par Ponge 40 ans plus tôt, sans nous douter alors de ce qui nous attendait, et dans notre lecture, et sur notre chemin.
Allô ? Vous voulez parler à Odette ? Eh oui, c'est François. Ben ça va ? Bien. Et vous, Odette, elle n'est pas dans la chambre. Et quand elle rentre, ben, je lui dis qu'elle vous rappelle. Allez, au revoir. De rien.
Bon, tu te souviens, François, c'est-à-dire que tu as eu l'accident au mois de mai en 93. Et c'était en allant de Marseille à Aix.
Oui.
Ensuite, tu restes 15 jours dans le coma. Et maintenant, tu es ici, c'est-à-dire au centre de rééducation de Valmont. Réadaptation, j'ai vu. Est-ce que tu te souviens qu'avant ton accident, tu avais déjà amorcé la lecture du texte ?
Ah oui, ça, je m'en souviens, oui. Dans la première lecture qu'on avait faite, on l'avait fait d'abord plusieurs fois. Donc, il y avait des textes que j'aimais bien. Quoi. Par sensibilité, ces textes-là me plaisaient. Alors, c'était un plaisir de les lire, ceux-là. Il y a des mots, il y a une façon de parler qui me touchait, quoi. Et même les nouveaux textes que je lis, c'est pareil, il faut que je fasse un travail de mémorisation. Je vis non seulement une mémoire au quotidien, mais en plus une mémoire du passé. Qui est une mémoire, certains trucs je me rappelle très très bien, et certains trucs ben, je les ai oubliés ou je me rappelle par fragments. En plus de ça, j'ai un problème de diction. C'est-à-dire que pour bien prononcer, pour la bouche, ben, il faut vraiment que je force. Et puis en plus, pour lire ces textes, il faut du souffle. Voilà.
On le reprend ?
Ouais. Il n'a fait jour résolument qu'au Martigues. À Port-de-Bouc, aucune odeur. L'homme de Saint-Dié, assis en face de moi, était agacé par le panache de la locomotive. Je le fus donc aussi. Énorme graffiti à Marseille et dans sa banlieue. Vers 9h du matin, dans la campagne d'Aix, autorité terrible des ciels. Valeur très foncée, moins d'azur que de pétale de violette bleue. Azur cendré, impression tragique, quasi funèbre.
Francis Ponge réside à Roanne depuis le début de la guerre. Le parti pris des choses qu'il fera connaître va être publié en 1942. Le 3 mai 1941, il ouvre un cahier sur lequel il écrit La Mounine. C'est un lieu-dit, près de Bouc-Bélair, entre Marseille et Aix, où se trouve un poste à essence, le relais de La Mounine. la station présente une curiosité. Une statue représentant un singe accroupi, ou plus exactement, une guenon. L'italien Mona, qui signifie guenon, est une contraction de Madonna, dame, d'où peut-être Mounine pour petite dame. Ces étymologies sont peu sûres. À Marseille, Mounine désigne le sexe de la femme. Dans la nuit du 10 mai, Ponge poursuit la rédaction de son texte sur lequel il revient à plusieurs reprises durant les mois de mai et de juin pour le terminer fin juillet, début août 1941. Il le reprendra ainsi une douzaine de fois. La Mounine porte comme sous-titre « Note après coup sur un ciel de Provence ».
Une seule petite question, c'était la première fois que vous preniez cette route?
Parlant italien, si je suis originaire d'Italie, je dirais non lo so, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Je ne peux pas, je ne veux pas dire d'inexactitude, et je ne me souviens pas du tout pourquoi. Il me semble que je dis dans le texte, quelque part, qu'il faut que je ne me borne pas aux sanglots esthétiques, mais que je tire une leçon presque morale, éthique. Je veux qu'elle serve à quelque chose, qu'elle permette de faire quelque part à l'esprit, c'est-à-dire à la raison, n'est-ce pas? Je le dis quelque part, je crois, dans le texte, puisque je suis à ce moment-là, je suis membre du Parti communiste, mais je suis aussi matérialiste, enfin, c'est-à-dire que je ne me fie pas à des notions de transcendance. Je tiens toujours à partir de, comment dirais-je, du concret, de la matière, de la chose qu'on peut tenir dans les mains et qu'on peut pétrir. Et je ne peux pas dire autre chose. Je veux pas dire d'inexactitude. Je crois que c'est cela. J'ai toujours été plutôt, enfin, je me suis efforcé, encore maintenant, d'ailleurs, d'être plus païen que chrétien, si vous voulez. D'être tout à fait anti, comment dit-on, monothéiste, enfin, le contraire de monothéiste, c'est-à-dire panthéiste, polythéiste. Enfin, je pense qu'il y a que chaque chose, chaque mouvement de l'air, chaque feuille qui bouge, c'est un dieu qui l'a fait bouger. Enfin, je veux dire que tout est divin et non pas seulement un seul dieu qui domine tout. Ça doit être dans le texte aussi ça, qu'il n'y a pas quelqu'un qui domine tout et que ce qui est touchant justement dans le ciel de Provence, c'est ce fait que la nuit est visible en plein jour. Je ne sais pas si c'est dans la Mounine, dans le texte, qui s'appelle, attention, note après coup, C-O-U-P, n'est-ce pas? C'est-à-dire que j'ai reçu, là, un coup comme une espèce de révélation, si vous voulez, un coup de gond. J'emploie le mot sanglot esthétique à plusieurs reprises dans mon œuvre, dans mes textes sur la peinture, notamment sur un texte sur Braque, Georges Braque. Je dis que j'ai ressenti à plusieurs reprises cette émotion, aussi dans des endroits mouvants, comme la marche d'un autobus. Par exemple, est-ce que c'est dans la Mounine, ça que je dis, dans mon texte de la Rue de l'Expression, là, est-ce que je dis que j'ai éprouvé une émotion du même genre une fois que j'étais en chemin de fer, il y a beaucoup plus longtemps, dans la région de Biot, parce qu'il n'y avait que le ciel et la mer. Puis je l'ai éprouvé une fois aussi, quand je montais à motocyclette d'un endroit, c'était dans le Puy-de-Dôme, je suppose, quelque chose comme ça. Je montais une forte pente et que je me suis retourné et que j'ai vu tout un paysage. C'était un paysage.
En date du 24 mai, Francis Ponge écrit « Que rien désormais ne me fasse revenir sur ma détermination. Ne sacrifier jamais l'objet de mon étude à la mise en valeur de quelques trouvailles verbales que j'aurais faites à son propos, ni à l'arrangement en poème de plusieurs de ses trouvailles. En revenir toujours à l'objet lui-même, à ce qu'il a de brut, de différent, différent en particulier de ce que j'ai déjà à ce moment écrit de lui. Que mon travail soit celui d'une rectification continuelle de mon expression en faveur de l'objet brut. Ne jamais essayer d'arranger les choses. Les choses et les poèmes sont inconciliables. Il s'agit de savoir si l'on veut faire un poème ou rendre compte d'une chose. C'est le second terme de l'alternative que mon goût sans hésitation me fait choisir. Ma détermination est donc prise.
Du 10 au 30 juin 1941. Je me suis demandé ce soir, quand je ne dormais encore qu'à demi, maintenant c'est aux trois quarts, premièrement, s'il ne serait pas plus fidèle d'écrire à partir de l'autobus où je me trouvais quand je ressentis ce paysage. Plus fidèle et plus réussissable. Deuxièmement, plus tard, mais était-ce un songe, cela m'échappe, je ressentis très fortement la difficulté du sujet, mon mérite et le peu de chance que je possède de réussir à le traiter. Cette étude devrait être très longue encore. Elle peut aussi bien durer des années. Ne jamais me laisser entraîner à oublier ce de quoi il s'agit pour moi. Simplement, de rendre compte. Premièrement, l'autobus avancé, cinématique. Deuxièmement, l'autorité du ciel sur le paysage. Grand A, le ciel. Grand B, le paysage. Le paysage m'avait fortement surpris, ému, intrigué. Troisièmement, quand m'apparurent les statues, les urnes, mon émotion tout à coup fut décuplée. Il y eut un sanglot. L'autobus, autocar de Marseille à Aix, au lieu dit Lamonine, ou à celui des trois pigeons, ou à celui des frères gris, avancé. Assez lentement, il est vrai, cela montait. J'étais contre la vitre, fermée, tassée, passant inaperçu de moi-même, l'heure importe, 8h du matin, fin avril.
Pour découvrir les éléments du décor décrit dans la Mounine, il faut refaire pas à pas la Nationale 8 à la sortie de Marseille, en s'installant, comme Francis Ponge le précisera, sur le côté gauche d'un car. Il faut aussi, en revenant sur les lieux, retrouver des témoins pour savoir où se trouve précisément le paysage invoqué.
Moi, je réagis très bien à ce qui est dit par Ponge. Et je le ressens d'autant plus parce que je vous dis, je l'ai vécu de la même façon, parce que la ligne d'Aix est une ligne interurbaine et moi j'étais sur le 40 sur Aubagne. Donc j'ai eu pratiquement les mêmes réactions. Pour la question de voir le paysage, les autobus qui dataient de l'époque de la guerre en 1940, ils étaient loin d'être évolués sur le plan technique comme ils le sont maintenant. Un autobus de l'époque, quand il montait la vitre, il devait ramer d'une façon lamentable, il devait monter en première, il devait se traîner. Et après, en plat, ça ne devait pas dépasser le 55 ou 60 km à l'heure, hein, maximum. Hein. Maintenant, il peut se faire que dans ses souvenirs, le fait de partir du centre-ville, d'être au milieu des maisons, des trucs comme ça, il y a une grande côte et on arrive sur un plateau, on découvre la nature.
La route normale passait par le village de Bouc-Bel-Air et la route actuelle était un chemin privé. Pour donner une idée de la rapidité du rehaussement de cette route, les quelques rails de tramway qui existent alors qu'ils étaient à cet endroit en surélévation, sont actuellement enterrés à au moins 30 cm en dessous du tapis goudronné.
La Mounine était un relais, c'est un otard, qui servait à amener des chevaux frais qui tiraient les diligences ou qui transportaient des matériaux, blé, etc., qui se dirigeaient vers la ville de Marseille. Cette voie, cette route nationale numéro 8, était, disons, à quelque chose près, mais là, la voie romaine.
Toujours à Roanne, Francis Penge reprend son travail un mois plus tard. Durant le mois de juillet, il remet son texte sur le métier à plusieurs reprises. Il prend toujours soin de dater à chaque fois ses nouvelles rédactions.
Du 1er au 12 juillet 1941. À quelle heure, très matinale, le grand coup de gong a-t-il été donné ? Dans toute l'atmosphère vibre encore, sans déjà qu'aucun son ne se fasse plus entendre, et vibrera toute la journée. Le soleil trône, sur lequel il est impossible de maintenir le regard, et ses tambourinaires l'entourent, les bras levés au-dessus de leur tête. Mais non, tout cela est effacé par l'ardeur même. L'on jurerait de mémoire qu'il n'y avait que le ciel bleu, plus vide assurément que le ciel nocturne. Quelle autorité, quel poing irrésistible s'est abattu sur la toile nocturne pour éveiller les vibrations du jour, qui durera jusqu'à ce qu'elle se rassoupisse. Note après coup sur un ciel de Provence, le 12 juillet 1941. La plus fluide des encres à style est-elle vraiment la bleue noire ? Azur à mine de plomb. Quelle poulpe reculant au fond du ciel de Provence a provoqué ce tragique ancrage de la situation ? Ou s'agit-il goutte à goutte d'une infusion du poison qui commence comme ciel et finit comme azur ? Il s'agit d'une congestion. Tant l'azur s'est amassé. Les maisons, les tuiles serrées, laissent closes leurs paupières. Les arbres ont mal à la tête. Ils évitent de bouger la plus petite feuille. Non. Il s'agit de l'explosion en vase clos d'un milliard de pétales de violette bleue.
On dit plusieurs fois violette bleue.
Pétales de violette bleue. En fait, bleu, c'est dur. Hein. Pour moi, c'est très dur. Bleu. De violette bleue. Le 13 juillet 1941. Au lieu dit La Mounine, entre Marseille et Aix, un matin d'avril vers 8 heures, par la vitre de l'autocar, le ciel, quoique limpide, dessus des jardins, m'a paru tout mélangé d'ombre. Quel poulpe reculant hors du ciel de Provence avait-il provoqué ce tragique ancrage de la situation ? Ou n'était-ce plutôt quelque chose comme le résultat de l'explosion en vase clos d'un milliard de pétales de violette bleue ? Il y avait comme une dissémination de cendres dans l'azur. Et je ne suis pas sûre que l'odeur n'en fût pas comparable à celle de la poudre. La Mounine, le 14 juillet 1941. Au lieu dit La Mounine, auprès d'Aix-en-Provence, un petit matin de printemps, le ciel pourtant limpide au travers des feuillages m'a paru tout mélangé d'ombre. Je ne crois pas que la nuit rancunière, pour venger son recul de dessus ces régions, ait vidé de son encre à style la bleue noire, son gros cœur de poulpe à notre détriment. Je ne crois pas la nuit poulpe si rancunier pour son recul derrière l'horizon et voulu d'encre à style bleu... Je ne crois pas la nuit poulpe si rancunier pour son recul derrière l'horizon et voulu d'encre à style bleu noir vider son cœur à cette occasion. Je ne crois pas la nuit si rancunière d'avoir voulu poulpe à cette occasion. Vider son cœur d'un flot d'encre bleu-noire. Je ne crois pas la nuit si rancunière que, reculant derrière l'horizon, elle ait voulu vider d'encre à style bleu-noir son cœur de poulpe à cette occasion. Ah ben ça, c'est un texte que Je me rappelle très bien de l'avoir lu. Parce qu'il y avait différentes manières de dire la même chose. Et puis, à chaque fois, j'ai changé. Ça, c'était la nuit rancunière. Ça, c'était rancunier. Ça, je me rappelle de ce texte. Et puis, je me rappelle très bien, c'était « D'encre a-t-il bleu noir ?» Et ça, ça m'avait marqué. « D'encre a-t-il bleu noir ?» C'est beau, je trouve. Et puis aussi, le fait d'avoir imaginé que ça pourrait être un poulpe dans le ciel qui avait pu ancrer le ciel pour le rendre comme un ciel de nuit, quoi.
Il y avait des arrêts, mais lorsque vous avez eu ce sentiment, ce paysage que vous avez vu, vous ne l'avez pas vu durant un arrêt de car.
Je ne crois pas. Il ne me semble pas.
Vous veniez donc de Rohan pour des raisons personnelles.
Oui, je crois. Tu es là, Odette?
Oui.
Je crois. Je crois que ma tante, une de mes tantes, femme d'un frère aîné de ma mère, donc du côté maternel, qui était d'ailleurs, elle, d'origine russe, mais mariée avec l'aîné de mes oncles du côté maternel, était malade alors qu'elle était à Aix, en Provence, et que, je ne sais pas si elle nous avait appelé au secours, ou je ne sais pas. Tu te souviens pas, toi, Odette?
Tu es allé la voir.
Comment?
Tu es allé la voir.
J'allais voir. Enfin, j'ai fait ce voyage pour aller voir cette tante, cette vieille dame.
On n'entend pas trop les cigales.
Elle est arrivée proche, mais on entend bien la voix.
Note, motion, d'ordre à propos du ciel de Provence. Le 19 juillet 1941. Il s'agit bien de décrire ce ciel tel qu'il m'a paru et m'impressionna si profondément. De cette description, ou à la suite d'elle, surgira en termes simples l'explication de ma profonde émotion. Si j'avais été touchée, c'est qu'il s'agissait sans doute de la révélation sous cette forme d'une loi esthétique et morale importante. À l'intensité de mon émotion, à la ténacité de mon effort pour en rendre compte, et aux scrupules qui m'interdisent d'en bâcler la description, je juge de l'intérêt de cette loi. J'ai à dégager cette loi, cette leçon. La Fontaine eût dit cette morale. Ce peut être aussi bien une loi scientifique, un théorème.
Passe à l'autre page, non, c'est la page 16.
Pardon.
Tiens, écoute ce qu'écrivait Ponge en 44. En un sens, le parti pris, la rage, ne sont que des exercices. Exercices de rééducation verbale. Cherchant un titre pour le livre que deviendra peut-être un jour La rage, j'avais un instant envisagé ceci. Traction de la langue ou la respiration artificielle. Après une certaine crise que j'ai traversée, il me fallait, parce que je ne suis pas homme à me laisser abattre, retrouver la parole, fonder mon dictionnaire. J'ai choisi alors le parti pris des choses.
J'ai demandé aujourd'hui à ce qu'il fait du sport, kinésithérapeute, je lui ai demandé s'il pensait pas que ça me ferait du bien d'aller chez la parleuse, là, comment ça s'appelle ?
Orthophoniste.
Oh, ouais. Je lui ai dit qu'à cause de ce truc, là, j'avais des problèmes pour prononcer et que je lui ai expliqué que pour moi, la parole, c'est quand même évident que c'est essentiel. Quoi. Non, mais il doit avoir raison, en fait. Hein. C'est que ça va passer tout seul et qu'il n'y a pas besoin de m'en faire. Hein.
Reprends sur la campagne de Provence.
Sentiment actuel, moi je suis pas. Je n'ai pas l'habitude de regretter quoi que ce soit. Et je suis relativement, je ne dis pas fier, mais heureux de me souvenir que j'étais à l'époque communiste, que je marchais contre Vichy et les envahisseurs nazis, toute mon activité résistante à l'époque, enfin, pendant un certain temps, et d'ailleurs, à Roanne, pendant longtemps, on m'a seulement demandé de me tenir tranquille parce que notre appartement servait de lieu de rencontre à des personnages beaucoup plus importants que moi, bien sûr, à l'intérieur du Parti communiste, qui étaient des militants de première importance et qui se réunissaient parce qu'on savait que c'était un endroit où on pouvait se réunir et qu'on était tranquille. Et on me disait, reste, fous-nous la paix, reste tranquille, sois considéré que simplement comme un agent d'assurance, ce que j'étais pratiquement à Rouen pour vivre, quoi, pour gagner ma vie, et ne fais aucune action de résistance. Alors pendant un certain temps, ça a été comme ça, et c'est seulement quand les Allemands ont franchi la ligne de démarcation, c'est seulement à partir de ce moment-là que j'ai pu alors faire de la résistance active et faire tous les voyages de résistance que j'ai fait pour réunir les journalistes et les inciter à prendre le pouvoir.
L'amour. Du 19 au 28 juillet 1941, il est temps d'y revenir. Au lieu-dit Lamounine, auprès d'Aix-en-Provence, le matin d'avril vers 8 heures, le ciel pourtant limpide au travers des feuillages m'apparaît tout mélangé d'ombre. Un beau jour est aussi un météore, pensais-je, et je n'eus de cesse que juste inventer quelque expression pour la fixer. Je crus d'abord, ce n'était point, que la nuit rancunière, pour venger son recul au-dessus des régions, avait voulu vider d'encrassis bleu-noir son cœur de poulpe à cette occasion. Ou peut-être, me dis-je, ce n'était point. Infusé goutte à goutte, s'agit-il du poison dont le nom qu'on redoute, étrangement proche de sa couleur, commence comme ciel et finit comme azur. Le 25 juillet 1941, 1h30 du matin, un pas nouveau. Comme un buvard, une serpillière imprégnée d'eau sont plus foncées. Pourquoi ? Est-ce que la science optique donne la réponse ? Que sec. Ils sont premièrement plus cassants, deuxièmement plus pâles. Ainsi le ciel bleu est-il un buvard imprégné de la nuit interstellaire. Plus ou moins imprégné, il est plus ou moins foncé. À Aix-en-Provence, il est très imprégné, parce qu'il n'y a pas grand-chose entre les espaces interstellaires et lui. Dans le midi, il y a beaucoup de soleil, c'est entendu. Mais il y a beaucoup aussi la concomitante nuit interstellaire. Ils luttent l'un contre l'autre, au sens où vers lundi, les hauts talons luttaient avec les longues jupes. L'on peut dire que dans le midi, le soleil triomphe moins que dans le nord. Certes, il triomphe davantage des nuages, brouillards, etc. Mais il triomphe moins de son adversaire principal, la nuit interstellaire. Pourquoi ? Parce qu'il sèche la vapeur d'eau, laquelle constituait dans l'atmosphère le meilleur paravent du triomphe pour lui. Il en résulte une plus grande transparence et faculté d'imprégnation par l'éther intersidéral. C'est la nuit intersidérale que, les beaux jours, l'envoie par transparence et qui rend si foncé l'azur des cieux méridionaux. Expliquez cela par analogie avec le milieu marin, ou plutôt aquatique.
Il y a le fait que ma tante avait une fille. Et cette fille était étudiante à Aix aussi, hein, Odette. J'ai demandé à Linette, enfin on l'appelait Linette, de vérifier, comme font les scientifiques, que il n'était pas absurde de dire que dans le midi provençal, on a à la fois une vision du ciel nocturne, si vous voulez, malgré qu'on soit en plein jour, comme, est-ce que je dis, comme une vitre, une partie dépolie dans un ciel. Oui. Et si on pouvait aussi, je ne sais pas pourquoi, il me semble que j'ai évoqué le fait, le côté baroque, si vous voulez, du paysage, c'est-à-dire, si on pouvait dire que le baroque n'est pas une chose purement nordique ou de l'Est, mais que c'est aussi, si vous voulez, que les troncs d'olivier sont des choses qui ne sont pas du tout, enfin, de ce qu'on appelle le classique méditerranéen, si vous voulez, le classique gréco-romain. Il y a aussi un côté tordu, c'est peut-être dans le Malherbe, je ne sais pas, je ne me rappelle pas.
La Mounine, 29 juillet au 5 août. Au lieu dit La Mounine, auprès d'Aix-en-Provence, un matin d'avril, vers 8 heures, le ciel pourtant limpide au travers des feuillages m'a paru tout mélangé d'ombre. Je formais tout d'abord que la nuit rancunière.
Là, actuellement, nous sommes chez moi à exactement 300 mètres environ de la Croix d'Or et 1 km de la Mounine. Alors, les jardins d'Alberta sont donc situés sur le côté droit en venant de Marseille. Le château figure sur le plan d'origine, non signé. Il n'a jamais été construit. Ce jardin a été laissé à l'abandon pendant au moins 2 générations.
Nous sommes au château de la Malle.
Château de la Malle, voilà, qui est le lieu dit la Malle, et qui était auparavant un relais de poste entre Aix et Marseille, puisque la Viste n'est pas loin et les chevaux arrivaient ici pour se reposer.
Et de la route, on était censé voir tout ça?
Eh bien, on pouvait voir, parce que là, à l'heure actuelle, nous voyons des grands arbres qui ont certains plus de 100 ans. Les platanes ont 100 ans, ça je sais que les platanes ont 100 ans. Et les arbres qu'il y a autour, vous voyez, certains cèdres sont encore plus vieux que ça. Les urnes funéraires sont d'époque romaine du 2e, peut-être 3e siècle, avec une autre urne qui est parée du 1er siècle parce qu'elle est beaucoup plus rustique. Il y a une vasque étrusque qui date de l'époque hellénistique, 200 ans avant Jésus-Christ. Voilà, les bambinis sont là.
Il y avait un arrêt de car, d'après vous, ici?
Il y a un arrêt de car parce que si nous allons au fond du parc, vous allez voir la grille d'entrée de la propriété qui est face à la gare. Donc l'arrêt, c'est vrai, il existait, mais face à la gare. Et c'est pour ça que c'est la gare de Bouc-Cabriès. Alors peut-être que, comme Port de Bouc a peut-être une importance plus grande, puisque ça a toujours été un lieu de grande pêche, Port de Bouc, alors peut-être que dans la mémoire du poète, c'était Port de Bouc qui a dû le marquer, mais c'est vrai que Bouc-Bel-Air, Port de Bouc, on peut faire une liaison.
Il a rapproché le nom des deux lieux.
Voilà.
Et vous savez qu'est-ce qu'il a dû rapprocher aussi? Le nom, alors vous le connaissez, le peintre Chabot,
oui,
avec le lieu dit Les Chabots, où nous sommes pratiquement.
Exactement, c'est à 100 mètres.
J'ai vu, je ne dis pas pour la première fois, c'est possible, mais ça m'étonnerait, des chabots chez des gens qui étaient des agriculteurs, qui étaient des amis de René Char, et qui s'appelait Mathieu, M-A-T-H-I-E-U, qui avait une grande propriété, mais qui employait les procédés les plus récents de la technique agricole, et aussi qui étaient des gens très cultivés. Et ces gens-là avait une collection de peintures dans laquelle il y avait certainement des chameaux.
C'est dans le sens de ce qui précède que devrait continuer et achever le poème dont le début serait à peu près comme si après, au lieu dit Lamounine, auprès d'Aix-en-Provence, un matin d'avril vers 8 heures, le ciel pourtant limpide à travers les feuillages m'apparut tout mélangé d'ombre. L'on eût dit que la nuit rancunière, pour ranger son recul au-dessus des régions, avait voulu vite désencrasser le bleu noir, son cœur de poulpe à cette occasion.
Je ne peux pas dire. Enfin, vous savez, la mémoire n'est pas quelque chose de, comment dirais-je, de très certain. La mémoire est travaillée, enfin, elle oublie certaines choses, elle construit d'autres choses. C'est une drôle de faculté, hein. C'est quelque chose d'assez... C'est étonnant, ça fait partie à la fois de l'imagination et aussi, il y a une mémoire imaginaire.
Commencée en mai, reprise en juin, Lamounine est achevée en août 1941. Francis Ponge ignorait l'origine de Lamounine comme l'existence de la statue.
La légende de cette Mounine est très ancienne. Une gonon avait sauvé en allaitant un gosse, et depuis, à l'époque, on l'avait surnommée Lamounine, et on avait dressé, bien sûr, une pierre à son effigie.
Au lieu dit Lamounine, il y avait, hélas, je dis à l'imparfait, il y avait une statue représentant une guenon, Mounine en provençal. Cette statue vient d'être volée. Il y a 15 jours ou 3 semaines, le gérant ou le propriétaire de la station Total où était située cette statue a fait une déclaration de vol à la gendarmerie.
Il est 8h10. FIP, mettez aux côtes pour vous les prévisions.
La statue s'appelait comment exactement? Est-ce qu'il y avait un nom?
Le singe de la Mounine. C'était un singe assis. Avec une main, il manquait une main. Il manquait la main droite, je pense.
Et qui est-ce qu'il a recherché? Elle a été recherchée, mais par...
Ça a été simplement signalé à la gendarmerie, un dépôt de plainte, à Total, puisque... Et je pense que ça a suivi aux Beaux-Arts.
Le poids, vous aviez, est-ce que vous avez une idée?
60 kilos.
Pas très haute.
Ah, de faire 70 cm d'eau.
Et comment le vol s'est fait?
Ah, ben ça, on ne le sait pas, ça s'est fait la nuit, hein. Mais enfin, je pense qu'ils ont mis un trépied, parce qu'il y a 3 marques dans la terre, 3 pieds. Et puis après, ils ont dû la traîner. Et pour la défaire, ils ont essayé de défaire le socle d'abord. Vous n'avez pas vu, vous n'avez pas regardé.
Mais c'est la statue uniquement qui était classée ou toute la station?
Il me semble que c'était la statue qui était classée et peut-être les arcades. Vous voyez là-devant, mais je ne suis pas sûr. Mais la statue était classée.
Il y a longtemps que vous êtes ici?
3 ans.
Et d'après vous, elle a toujours été là, cette statue?
Ah, moi, je l'ai toujours connue et j'ai connu un entrepreneur de maçonnerie qui a fait des travaux ici. Un entrepreneur de maçonnerie qui a fait des travaux et il m'a dit qu'il avait déplacé, lui. À l'origine, elle était sur le toit. Puis qu'il a déplacé, qu'il l'a mise là-bas. Ça remonte aux années 55, je crois, ou 58, je crois qu'il m'a dit.